Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Renaud, j'ai 34 ans, je viens d'Alsace. Je suis marié avec une belle femme. Ah, désolé si je ne parle pas très très fort aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à la gorge. Je suis enseignant à l'école privée chrétienne Oberlin, qui a ouvert à Mulhouse donc, il y a 2 ans. Cette année, j'ai les CM1 et CM2. Voilà, une école qui tourne plutôt bien. Et donc, avant ça, j'ai enseigné pendant 1 an dans le public en tant que professeur de terminale bac pro dans les énergies. J'ai été à VS pendant près de 2 ans aussi, avec un élève de première S. Et puis, j'ai tout arrêté pour aller faire une formation à l'Institut biblique de Genève, où j'étais pendant 2 ans, dont un stage pastoral d'un an vers Saint-Étienne. Avant de partir donc à Guebwiller pour me former en tant qu'enseignant dans l'éducation chrétienne, donc à l'Institut supérieur protestant Mathurin Cordier, donc Pierre que vous aurez tout à l'heure était un de mes formateurs. Voilà, donc c'est un équivalent, disons, une licence sciences de l'éducation chrétienne, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et je continue aussi en parallèle mes études à la fac de théologie d'Aix-en-Provence. Voilà. Donc on va commencer notre sujet en parlant d'un enfant créé à l'image de Dieu. On va essayer de se poser la question de qu'est-ce que l'image de Dieu chez l'enfant. Et on va voir aussi un petit peu plus tard chez l'élève.
À gauche.
Ok. Donc ce matin, on va voir les 3 premiers points. Donc la définition de l'expression image de Dieu. C'est une expression un peu ambiguë, donc on va essayer de définir un petit peu ce que c'est. On va voir les fondements bibliques de l'importance des enfants pour Dieu, parce que Dieu aime les enfants. L'enfant selon une vision biblique du monde, donc ça sera notre conclusion de ce matin. Et puis donc la 4e partie, on la verra cet après-midi, avant l'atelier. Donc, définition de l'expression « image de Dieu ». Que veut dire ce fameux mot « image de Dieu » ? On retrouve d'ailleurs plusieurs fois dans la Bible. Alors, c'est quelque chose d'assez compliqué. Les théologiens se sont tous un petit peu crêpé le chignon, on va dire, pour essayer de donner une définition de ce qu'on entend par image de Dieu. Et même aujourd'hui, vous allez voir, je vais donner quelques exemples, on n'a pas une définition stricte et précise de qu'est-ce que l'image de Dieu. Ça recouvre, on va voir, un champ qui est quand même assez large. Alors, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on peut remarquer que le mot « image » qui est utilisé la plupart du temps, c'est le mot « tselem ». On voit ça en fait dès le début, quand Dieu, Genèse 1, verset 26-27, c'est quel passage ? C'est la création de l'homme. Dieu dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Puis le verset juste après, Dieu les bénit. D'accord ? On retrouve cette même phrase, quasiment identique, au moment du renouvellement de l'alliance avec Noé. Si quelqu'un tue un homme, il sera tué aussi, parce que tuer quelqu'un, un homme, c'est tuer quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. D'accord ? Donc on voit qu'il y a un lien très fort entre l'image de Dieu qui est dans l'homme et Dieu. Mais on voit aussi, donc Genèse chapitre 5, verset 3, que le même mot est utilisé pour parler de la relation entre Adam et son fils Seth. Seth a été créé à l'image d'Adam. C'est-à-dire que cette image de Dieu qui a été mise en Adam, au moment de sa création, s'est transférée au moment de la procréation de Seth. Donc l'image se transfère. Donc le fils est créé à l'image de son père. Un vocabulaire qu'on retrouve dans le Nouveau Testament sous une autre forme. Dans le Nouveau Testament, justement, donc ce coup-là c'est du grec, c'est plus de l'hébreu, le mot qui est utilisé c'est le mot icône. Donc vous connaissez peut-être les icônes, ça vient de là, les images. Alors c'est intéressant de voir en fait que dans le Nouveau Testament, à chaque fois que ce mot est utilisé, c'est presque toujours en rapport avec Jésus. Les 2 seules fois où il est utilisé en rapport avec l'homme, c'est 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7, si tu veux nous le lire s'il te plaît Johan.
Juste verset 7.
Oui.
Okay. 11 verset 7. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme.
Et 2 Corinthiens 3, 18. Celui-là, je pense que vous le connaissez.
Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.
Merci. Donc ça, en fait, c'est les deux seuls versets où on parle de l'image de Dieu dans l'homme, dans le Nouveau Testament. Sinon, c'est toujours utilisé en rapport avec Jésus. C'est-à-dire que le Fils est l'image du Père. Donc finalement, on se rend compte que l'image de Dieu a un aspect anthropologique, c'est-à-dire qui concerne l'homme. Hein, c'est pas juste une notion ou un concept théologique comme ça, c'est quelque chose qui caractérise l'homme. C'est une dimension qu'on est obligé de prendre en compte quand on parle de l'homme, d'un point de vue chrétien. Alors, on va faire un petit survol de quelques théologiens, ce qu'ils ont pu dire sur l'image de Dieu. Pour Jean Calvin, donc le grand réformateur, l'image de Dieu, elle était essentiellement, pas que, hein, mais essentiellement spirituel. C'était surtout quelque chose d'intérieur, le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. Pour les théologiens Wayne Grudem, donc lui qui est contemporain, comme Calvin, il met une notion quand même spirituelle assez forte, intérieure assez forte sur l'image de Dieu. On va parler par exemple des attributs communicables de Dieu. L'image de Dieu dans l'homme, c'est par rapport à la bonté, à la sagesse, tout comme Dieu est sage, nous aussi on peut avoir dans une certaine mesure de la sagesse, de l'amour, de la bonté, de l'intelligence, etc. C'est aussi lié aux émotions, la joie, la tristesse, la colère, tout ce que Dieu peut aussi ressentir. C'est lié au fait d'avoir une conscience morale, pareil, hein, ça dépend du niveau pour chacun, mais normalement on a tous plus ou moins une conscience morale. Mais il parle aussi de l'aspect physique. Parce que dans la Bible, on voit que Dieu voit le péché des hommes, Dieu entend, quand on lui parle dans la prière, Dieu parle, il communique, par exemple, à ses prophètes, et puis il y a des aspects qu'on appelle anthropomorphiques, on voit Dieu qui a des mains, hein, c'est par son bras puissant qu'il a sorti son peuple de l'esclavage de l'Égypte, donc on donne des caractères physiques, des traits physiques à Dieu. Donc, quelque part, notre corps, notre aspect physique, reflète aussi quelque chose de l'image de Dieu. Donc on voit ce qu'on peut dire qu'il y a un caractère holistique de l'être humain. L'image de Dieu dans l'homme, ce n'est pas juste quelque chose intérieur, quelque chose de spirituel qu'on ne voit pas, c'est aussi le corps, c'est les deux, corps et esprit. Corps, âme et esprit. D'accord ? Donc c'est une globalité, l'image de Dieu. Nous sommes fait à l'image de Dieu, pas juste une partie. Ça, c'est important, l'aspect physique. Donc cet aspect physique, il se retrouve, j'ai envie de dire, à son paroxysme, dans l'incarnation. Jean chapitre 1, verset 14, « Dieu est venu habiter parmi nous en Jésus, quand il s'est incarné. » Donc si la dimension physique n'avait aucun intérêt, Dieu n'aurait pas pris la peine d'envoyer son Fils dans un corps physique. Et on voit ça aussi, pour nous, ça nous touche encore plus, à la résurrection corporelle. Jésus, quand il est mort, il est ressuscité. Mais il n'est pas ressuscité comme un être éthéré, un petit fantôme qui se baladait à droite à gauche, mais il est ressuscité corporellement, physiquement. Alors d'une manière différente de ce qu'il était avant, mais quand même, physiquement, c'est important. Et aujourd'hui, quand Jésus est remonté au ciel, à la droite de Dieu, c'est aussi corporellement qu'il est remonté au ciel. Christ est toujours et homme et Dieu. Toujours. Et en 1 Corinthiens 15, là c'est la nôtre de résurrection corporelle dont parle l'apôtre Paul. Alors là encore, il ne donne pas trop de détails, hein, donc on ne va pas trop essayer de spéculer sur qu'est-ce qu'on va ressembler quand on sera glorieux. Mais n'empêche que ça sera quand même quelque chose de corporel. Donc la dimension physique est vraiment importante. Mais l'image de Dieu ne concerne pas que notre être. Un autre théologien, Grégory Bill, mais aussi un contemporain, lui fait le lien entre l'image de Dieu et ce qu'on appelle le mandat culturel, ou le mandat créationnel. Pour rappeler Genèse 1 et versets 26-27, Dieu créa l'homme, il le dit, faisons l'homme à notre image, puis au verset 28, il le bénit. Il lui dit, remplis la terre, soumets-la, domine sur elle. Eh bien, pour lui, à Grégory Bill, en fait, ces trois termes, soumettre, dominer, remplir, sont liés au fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. Ce qui implique que le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas juste être quelque chose, mais c'est aussi faire quelque chose. Soumettre, dominer et remplir. Pour être participant de la bénédiction. Accomplir ce mandat que Dieu nous a donné. Donc ça, c'est une caractéristique spécifique. Une autre caractéristique encore plus spécifique, en Genèse chapitre 2, verset 7, l'auteur fait un petit retour, un petit flashback sur la création de l'homme, il donne un peu plus de détails, et puis on voit que Dieu, quand il forme l'homme, il met son ruach, en hébreu, son souffle, son esprit, dans l'homme. Ça, c'est quelque chose de particulier, parce que, selon la Genèse, nous sommes les seuls êtres de toute la création par lequel Dieu a mis son souffle, son esprit, directement en nous. C'est ce qui fait que, bien qu'on fasse totalement partie de la création, nous sommes bien des créatures, nous sommes en même temps distincts de la création. On a quelque chose de particulier. Nous sommes les seuls à avoir été créés à l'image de Dieu. Donc l'homme a un statut à part dans la création. Donc là, c'est ce que j'étais en train de dire. Hein. Ressemblance, mais aussi différence de l'homme avec le reste de la création. Si tu veux nous lire, s'il te plaît, Romains 1, 18 à 20. C'est aussi un passage que vous connaissez bien.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables.
Merci. Alors en fait, dans ce passage, il nous explique que dans sa création, Dieu se reflète quand même. Donc le caractère, quelque part l'image de Dieu, entre guillemets, se reflète quand même au sein de la création. Mais elle ne se reflète pas de la même manière qu'elle se reflète dans l'homme. D'accord ? On pourrait dire que dans la création, c'est juste un... Je vais dire un pâle reflet, parce que ça serait amoindrir quand même la beauté de la création. Mais c'est juste un reflet. Tandis que nous, nous sommes véritablement image de Dieu. D'accord ? Donc on peut retrouver des caractères, des traits de Dieu dans la création, mais elle n'est pas image comme nous, on est image. C'est là qu'on voit quand même un peu la limite des termes, quand même image ou reflet. Hein. Mais on est quand même bien distincte. Cette image de Dieu, alors qu'on retrouve dans la création aussi, hein, mais qu'on retrouve encore plus particulièrement dans l'homme, elle n'est pas juste une image simple, monolithique, mais c'est une image trinitaire. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc là, on peut débattre si on est d'accord ou pas avec la Trinité qui est en train de parler à ce moment-là. Moi, je le pense, en tout cas. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit après, Dieu étant trinitaire, Dieu ne se déchire pas. Si Dieu crée, en tout cas, l'image de la Trinité se reflète dans l'homme. Tout comme elle se reflète aussi dans la création. Donc cette image de Dieu dans l'homme, en fait, est très riche. Hein. Très riche. C'est l'être, c'est le faire, c'est la Trinité, c'est l'esprit. Qui le met à part du reste de la création. Si j'aime beaucoup insister sur l'aspect plutôt physique aussi, c'est parce que l'image de Dieu, du coup, a une dimension éthique. Donc Alain Isus, qui est à la fac de Vaux-sur-Seine, nous montre bien que du coup, il y a égalité homme, femme, enfant. Égalité dans notre être. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Et l'homme et la femme ne sont pas supérieurs à l'enfant. Hein, on prend souvent Genèse 1 pour dire oui, mais l'homme a été créé avant, il est supérieur à la femme. Pourtant, si on regarde bien Genèse 1, Dieu crée à l'homme, Dieu crée à l'homme, Dieu crée à l'homme et la femme. Dès le début, les deux sont associés. Hein. Donc, d'un point de vue ontologique, il y a absolument, donc de l'être, hein, il n'y a absolument aucune différence. D'ailleurs, dans le chapitre qui suit, quand Dieu crée la femme, il prend bien une partie de sa côte. Donc là, peu importe comment on l'interprète, mais en tout cas, il prend bien une partie de sa chair pour créer la femme. Ce qui montre qu'ils sont de même nature. Il n'y a pas de supériorité de l'homme par rapport à la femme. Et comme tout à l'heure, je disais que Seth a été créé à l'image d'Adam, à l'image de son père, eh bien Seth n'est pas inférieur en nature à son père. Ça, c'est très important. Les enfants ne sont pas inférieurs. Je pense que vous en êtes tous convaincus, hein, ici. Mais les enfants ne sont pas inférieurs aux adultes et les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, ni les hommes aux femmes. Hein. On n'est pas dans un mouvement féministe non plus. Donc nous sommes tous égaux. Donc ça, ça a des aspects quand même éthiques très importants, hein, de se rendre compte de cette image de Dieu dans l'homme. Beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Et on voit finalement que ce lien, il y a un lien très fort entre image de Dieu et filiation. Et ça, la filiation, hein, c'est un thème très important tout au long de la Bible. Tout passe par la filiation. Dès le début, quand Dieu promet à Adam que c'est par la descendance de la femme que la descendance du serpent sera écrasée, ce caractère de filiation, de fils, est vraiment primordial tout le long de la Bible. Ce qui fait que nous sommes, quelque part, fils de Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est maintenant, depuis la chute. Vous savez tous qu'en Genèse 3, il se passe un gros problème. La femme a faim. Elle fait partager son repas à l'homme. Mais là, ça casse quelque chose avec Dieu. Ça ne marche plus. La question qu'on peut se poser, c'est donc, depuis la chute, qu'est devenue l'image de Dieu dans l'homme? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle a bougé? Ou est-ce qu'elle est toujours identique? Alors, en Éphésiens, chapitre 2, verset 3, Paul nous dit que nous sommes, on utilise des mots forts, hein, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de colère. Adam et Ève avaient reçu le mandat de remplir le monde, donc de remplir physiquement avec des enfants, mais aussi de remplir le monde de la gloire de Dieu. Eh bien, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont rempli d'enfants de colère. Oui, c'est des termes quand même assez forts, hein, d'enfants de colère. Cette image de Dieu, elle est noircie, mais elle est toujours présente. Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que tu peux nous lire Jacques, chapitre 3, verset 9, s'il te plaît?
Ouais. Par elle, par la langue, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu.
Voilà. Donc là, vous voyez, on est quand même bien longtemps après la chute pour l'apôtre, enfin pour le frère du Seigneur. En tout cas, les hommes sont toujours faits à l'image de Dieu. Et Genèse 9, verset 6, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand Dieu renouvelle son alliance avec Noé, là aussi, hein, on est bien après la chute, il parle bien de l'image de Dieu. Donc cette image, elle est toujours présente. Mais elle est noircie. Hein, l'Ecclésiaste dit, Dieu a fait l'homme droit, mais lui, il a cherché beaucoup de détours. Hein, son cœur est tordu. Pervers. Mais il y a quand même toujours l'image de Dieu. Et ça, ça se retrouve dans ce qu'on appelle la doctrine du péché originel, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qui malheureusement pour moi est biblique. Tu veux nous lire le psaume 51, verset 7, s'il te plaît?
Ouais.
C'est le roi David lui-même, hein, qui parle.
Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché.
Ouais. On ne peut pas être plus clair, je pense. Tout en se rappelant que celui qui vient de dire ça, c'est quand même celui qu'on appelait le roi selon le cœur de Dieu. Donc malheureusement, depuis la chute, tout comme cette par la filiation, tout comme cette image de Dieu se transmet aux descendants, tout comme cette était l'image de son père, le péché se transmet aussi. Donc cette image se transmet, mais elle se transmet d'une façon noirci, perverti, tordu. C'est comme s'il y avait un virus, là vous mettez dans votre clé USB pour transférer un fichier, ben, le fichier arrive tordu sur la clé, avec le virus, et bien ici c'est la même chose en fait. Si on veut essayer de comprendre un petit peu. Alors il y a deux extrêmes à éviter quand on parle de l'image de Dieu. Aujourd'hui dans l'homme, du côté chute, c'est Thomas d'Aquin pour qui l'image de Dieu était intacte. Donc ce qui pouvait lui faire dire par exemple que du coup on pouvait raisonner, la raison par exemple n'était pas entachée par le péché. Je pouvais raisonner pleinement sans avoir de distorsion du péché en moi. L'image de Dieu est là, elle est intacte. C'est caricaturé un peu, hein. D'accord. Et Karl Barth, le théologien libéral de ce siècle, pour lui, qui disait que l'image de Dieu, par contre, en l'homme, était totalement perdue. Donc ça, c'est les deux extrémités qu'il faut éviter. Non, l'image de Dieu est bien présente, comme le disait Thomas d'Aquin, mais elle n'est pas intacte. Elle est entachée par le péché, ce qui fait que je suis limité dans mes capacités, même intellectuelles, relationnelles. Et l'image de Dieu, non, n'est pas perdue. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Parce que c'est avec des doctrines un petit peu comme ça que... Alors, Karl Barth a combattu, plus ou moins directement, mais enfin, n'était pas du tout pour le nazisme. Mais quand on en arrive à penser que, du coup, si l'image de Dieu dans l'homme est totalement perdue, finalement, qu'est-ce qu'est l'homme? Pas grand-chose. Donc, finalement, je peux en faire un petit peu ce que je veux. Vous voyez comment on récupère des doctrines pour en faire d'autres doctrines qui sont moins... Donc je le répète, hein, lui n'était pas du tout pour ça, comme je le précisais. Mais quand on reprend les idées, vous voyez quand même ça peut mener. Donc c'est vraiment important de préciser. L'image de Dieu a aussi ce qu'on appelle une dimension eschatologique. Alors, c'est pas un gros mot. Eschatologie, ça veut dire ce qui concerne la fin des temps. Tout ce qui concerne la fin des temps dans la Bible, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie en théologie. D'accord ? Donc elle a une dimension eschatologique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on attend maintenant, nous en tant que chrétiens, c'est la restauration finale et notre glorification aux côtés du Christ. Donc cette image de Dieu en nous, elle est déjà pervertie, elle est toujours pervertie, mais en même temps elle est déjà glorieuse, même si on ne le voit pas encore. D'accord ? Donc cette image dans nous, elle est restaurée, d'une certaine manière, mais pas encore totalement. Donc là, je pense que si on peut pousser, il y a encore aussi un lien, je ne l'ai pas marqué, mais il peut y avoir aussi un lien fort entre la notion d'image de Dieu et celle de sanctification. On peut travailler, nous aussi, à notre image. Pas tout seul, mais avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le verset qu'il nous a lu tout à l'heure. Hein, quand on lit la parole, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Mais, est-ce que cela fait de nous des dieux ? Est-ce que nous sommes dieux ? Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. En plus, en tant que chrétien, on est restauré, donc du coup, est-ce que nous, on est dieux aussi ? Alors, non, nous ne sommes pas dieux. Alors, certains le croient, moi pas. Ce qu'on appelle l'analogie créateur-créature. Cette image de Dieu, c'est une analogie. Nous sommes... Cette image reflète quelque chose de Dieu en nous, mais ne fait pas de nous des dieux. Nous sommes 100% humains, 100% finis. Lui est infini. Nous sommes 100% physiques, même si on a une partie spirituelle. Lui est 100% métaphysique, même s'il a une partie physique avec l'incarnation du Christ. Oui, on a un peu toujours attention. C'est une analogie. Quand on utilise le mot « image de Dieu », d'ailleurs le terme en lui-même, le mot « image » se trouve bien dans la Bible, le concept lui-même, image de Dieu, comme on le définit dans la théologie, n'y est pas. D'accord ? On reprend des données qu'on met ensemble, selon ce que dit la Bible, et puis on sort, voilà ce qu'on peut comprendre de ça. D'accord ? Mais être une image, ça ne veut pas dire qu'on l'est. Christ, lui, il l'est, parce que Christ n'est pas juste l'image, mais c'est plus fort. Lui, il est carrément l'empreinte. C'est beaucoup plus fort que ça. Mais nous ne le sommes pas. Donc c'est l'analogie créateur-créature. On reflète quelque chose de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Et donc finalement, ce que je disais tout à l'heure, cette image de nous est double en réalité. Cette image est trinitaire, donc c'est une image ontologique. Alors ça, c'est des mots ontologiques et économiques qu'on utilise quand on parle de la doctrine de la Trinité. La Trinité ontologique, alors c'est des gros mots, mais c'est pas compliqué. La Trinité ontologique, c'est quand on parle des relations au sein de la Trinité, le Père qui aime le Fils, etc. La Trinité économique, c'est qu'est-ce que fait la Trinité dans le monde ? Le Père envoie le Fils qui vient mourir sur la croix, c'est ça. D'accord ? Donc il y en a un qui concerne l'être, il y en a un qui concerne le faire. Eh bien, cette image de Dieu en nous, eh bien, c'est identique. On a une image ontologique. Nous sommes image de Dieu, corps et esprit. Mais il y a aussi une image économique. L'image de Dieu en nous, c'est quelque chose aussi à faire. Soumettre, dominer, remplir. C'est le mandat et la bénédiction qu'on a reçu. Ça va à peu près là jusque-là ? Ouais. Ouais, donc là, on a fini sur la partie un petit peu théologique. Là. Maintenant, on a essayé de comprendre un peu mieux ce que c'était que l'image de Dieu. On va voir maintenant quelques fondements bibliques. De l'importance des enfants pour Dieu. J'ai pris quelques versets. Donc, les premiers versets concernent l'instruction et l'éducation des enfants. Parce que, est-ce que la Bible nous parle des enfants ? Est-ce qu'elle nous dit qu'on doit les instruire, qu'on doit les éduquer, qu'on doit en prendre soin ? Oui. Mais elle donne aussi des commandements pour les enfants. Donc on va survoler ces quelques versets. Johan, du coup, je vais te faire lire un petit peu.
J'ai l'impression.
Donc les premiers versets qui concernent l'instruction et l'éducation. Alors moi, je fais bien la distinction entre instruction et éducation. Pour moi, l'instruction, c'est apporter des notions académiques à des enfants. C'est ce qu'on fait quand on leur fait un cours de français. Éducation, c'est plus s'occuper de l'enfant en lui-même. Son cœur, mais aussi son corps. D'accord ? Donc pour moi, l'école chrétienne, c'est pas juste instruction, c'est pas juste éducation, c'est les deux. On ne peut pas séparer instruction et éducation. Alors, est-ce que tu veux nous lire un passage très connu chez les Juifs, qu'on appelait le schéma Israël ? Concerne les enfants, c'est vraiment un passage clé. Hein.
Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes.
Merci. Tu peux nous lire Proverbe 22:6 aussi, s'il te plaît. Proverbe, ouais. Bon, alors ça, c'est un verset qu'on peut manger aussi un petit peu à toutes les sauces, mais...
Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas.
Merci. Donc vous voyez, et même dans l'Ancien Testament, on n'a pas besoin d'être chrétien, l'éducation des enfants intéresse Dieu. Parce que ces versets, c'est des hommes qui les ont écrits, mais c'est avant tout aussi la parole de Dieu. D'accord ? Donc là, c'est Dieu qui parle. Il nous parle à nous directement. Dieu aime aussi les enfants. Il ne s'intéresse pas qu'à leur instruction ou à leur éducation, mais il les aime aussi. Peux-nous lire, s'il te plaît, Matthieu 18.
À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer.
Merci. Et marque 10, 13 à 16, s'il te plaît.
Les gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux.
Merci. Donc ces versets, hein, alors on les reprend souvent dans les églises évangéliques pour dire « Oui, moi j'ai une foi d'enfant, alors c'est très bien. » Mais ces versets concernent quand même vraiment les enfants, en fait. Hein. Ce n'est pas juste une image qu'on reprend facilement comme ça pour nous. Dieu ne nous demande pas non plus d'être des bébés toute notre vie. Hein. D'accord ? Donc là, ces versets concernent vraiment les enfants. Jésus aimait vraiment les enfants. Il ne les a pas juste pris pour faire une belle parabole avec un truc qu'on touche et du Montessori. Non. Jésus aimait vraiment les enfants. Mais les enfants ont aussi des commandements. Il y a aussi des commandements pour eux dans la Bible. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, Exode 20, verset 12.
Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Voilà. Donc, dans les 10 commandements, il y a quand même un commandement qui concerne aussi les enfants. Hein. Éphésiens 6, 1 à 4.
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur.
Merci. Et Colossiens 3, on ne va pas le lire, puisque c'est plus ou moins identique. Donc vous voyez, la Bible nous parle bel et bien des enfants. Dans plusieurs domaines. D'accord, donc Dieu s'intéresse aux enfants. On peut donc aussi s'y intéresser. Alors, maintenant on va passer au point 3. L'enfant selon une vision biblique du monde. Alors, qu'est-ce qu'une vision du monde ? Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ce concept, très utile. Une vision du monde, ça tente de répondre à 4 questions. Alors, une vision du monde globale, hein, je ne parle pas juste chrétienne. Hein. 4 questions. Qui suis-je ? Où suis-je ? Quel est le problème ? Malheureusement, on en a tous. Quelle est la solution ? D'accord ? Donc, chacun, croyant ou non-croyant, a une vision du monde, qu'il en soit conscient ou pas. Chacun se pose un jour ou l'autre ses questions. C'est les questions qui taraudent l'humanité depuis la création, j'ai envie de dire. Hein. D'accord ? Peu importe la réponse qu'on y donne, mais c'est toujours les questions qu'on se pose. Nous, en tant que chrétiens, pour résumer ça très simplement, on utilise ce qu'on appelle le schéma création, chute, rédemption. Ça, c'est notre paire de lunettes en tant que chrétiens pour voir le monde. Dieu a créé toutes choses. Malheureusement, le problème, c'est qu'il y a eu la chute. Aujourd'hui, quelle est la solution ? C'est Christ. D'accord ? Donc nous, aujourd'hui, nous vivons entre le moment chute et le moment rédemption. Un peu à cheval entre les deux, on va dire. Alors, des fois, on rajoute un quatrième point qui est celui de la glorification. Mais voilà, si on veut résumer très simplement toute l'histoire biblique pour avoir une vision biblique du monde, création, chute, rédemption. Quels sont les fondements théologiques d'une vision biblique du monde ? Ça, c'est des points qui sont très importants. Comme j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Chrétiens et non chrétiens. Ce qui veut dire que le chrétien n'est pas, dans son être, supérieur au non-chrétien. D'accord ? Ça, c'est important. Nous sommes tous égaux. Nous vivons tous dans la même réalité qu'il y a la création de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Même le non-chrétien qui ne veut pas le reconnaître, il vit dans la création de Dieu. Nous sommes tous, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure de David, totalement pécheurs, tous. Mais, heureusement, sinon on finirait sur une note très négative, Dieu limite les effets du péché de notre vie par l'action de la grâce commune, par sa providence qui agit. Ce qui fait que un non-chrétien peut très bien avoir une belle vie, même si malheureusement la fin sera moins glorieuse, très bien avoir une belle vie, avoir une famille, avoir un bon boulot, parce que, par la grâce commune, Dieu pourvoit à ses besoins. Tout comme d'ailleurs, il a pourvu au nôtre avant qu'on le connaisse. Et tout comme d'ailleurs, il pourvoit au nôtre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous parler, vous êtes en train de respirer, en train de m'écouter. C'est parce que maintenant, Dieu nous soutient par sa providence. Ce dernier point a une dimension très importante. Parce que du coup, ça nous pose la question, comment est-ce qu'un non-chrétien peut être un grand scientifique, un grand artiste? Et puis tous les non-chrétiens, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens que c'est des animaux, hein, des non-chrétiens qui font beaucoup de bien, plus que des chrétiens des fois. Donc on peut quand même se poser légitimement la question, en fait, comment ça se fait? S'il est totalement pécheur, comment c'est possible? Par la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le capital emprunté. D'accord ? En fait, il emprunte quelque chose à Dieu sans le savoir. C'est-à-dire qu'un artiste non-chrétien qui fera un magnifique portrait de la création, eh ben en fait, avec son portrait, sans le savoir, il est en train de glorifier Dieu. Puisqu'il est en train de représenter la création de Dieu. Donc il n'est même pas lui-même conscient. D'accord ? Mais, on se rend compte aussi qu'il y a une incohérence dans toutes les autres visions du monde qui ne sont pas chrétiennes. Au bout d'un moment, quand on pousse les conversations, on arrive toujours à un point de tension. Les gens ne sont pas forcément conscients, mais quand on creuse, finalement, il n'y a aucune vision du monde qui peut vraiment tenir debout si Dieu n'y est pas. Alors, en quoi c'est important pour nous à l'école? J'ai marqué entrer en dialogue avec l'enfant. Ça, c'est la situation de l'enfant de base. Quand il arrive à l'école, avant de donner sa vie à Christ, il est dans cette situation-là. Comment un enfant qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui a donc une image tordue, perverti, peut arriver à avoir des bonnes notes à l'école. Il fait ses devoirs à la maison. Grâce à la grâce commune, parce que Dieu limite les effets du péché dans sa vie. Et cet enfant, sans le savoir, à cause de la société dans laquelle il vit, à cause de la famille où il est, à cause de la culture, à cause de ce qu'il regarde, se crée en fait aussi une vision du monde qu'il ne connaît pas. Donc nous, en fait, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est d'entrer en dialogue avec l'enfant pour justement essayer de lui montrer tout ça. Essayer de lui montrer les incohérences dans les choses qu'il croit. Essayer de lui expliquer que s'il peut arriver à faire tout ça, c'est pas par ses propres efforts, c'est par la grâce de Dieu. Et que du coup, il a besoin de se libérer encore plus en donnant sa vie à Christ. Donc pour moi, la finalité de l'éducation, des fois ça peut être un peu choquant quand je dis ça, mais moi, mon but, c'est pas que mes élèves sortent de chez moi et tous des 20 sur 20, qu'ils deviennent ingénieurs et puis qu'ils aient une belle carrière ou... Parce que les ingénieurs qui finissent leur vie en enfer, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, l'objectif dans ma classe, c'est qu'ils donnent leur vie à Christ. Tout le reste, les cours, le français, les maths, sont des objectifs pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Le français, les maths ne sont pas mes objectifs. Un peu carré, mais pour moi, c'est ça. Ça nous amène maintenant du coup à une vision biblique de l'enfant. Donc là, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit. Hein. L'enfant est une créature de Dieu. Tous les enfants. L'enfant est égal en nature à moi qui suis le maître. Par contre, il est subordonné en fonction. Ça, ils aiment beaucoup quand je leur explique après, parce qu'ils disent oh, « je suis comme le maître ». Je suis comme eux, on est de la même nature. Je ne suis pas au-dessus d'eux parce que je suis le maître. Par contre, dans la salle de classe, je suis le maître, ils sont les élèves. Donc je suis au-dessus d'eux, pas pour les écraser, mais pour prendre soin d'eux. Parce que c'est ma fonction. Tout comme au-dessus de moi, il y a la directrice, tout comme au-dessus, il y a encore des gens. D'accord ? Ça, ils aiment beaucoup quand on leur explique ça. Hein, donc après, on peut leur dire, voilà, maintenant, on peut faire des choses ensemble, on n'est pas au-dessus. Par contre, quand je dis au bout d'un moment, stop, c'est moi le maître, donc on écoute. L'enfant... c'est pas qu'un corps physique, c'est aussi un être spirituel et éternel. Souvent, on a un petit problème de langage quand on, vous savez, quand on dit dans la Bible, Christ vient nous offrir la vie éternelle. Mais en réalité, alors c'est vrai et c'est faux en même temps, puisqu'en réalité, C.S. Lewis, celui qui a écrit Narnia, hein, disait hein, dans la rue, tous les gens que vous rencontrez, en fait, hein, il n'y a pas de personne ordinaire. Nous sommes tous des êtres éternels. La vraie question, en fait, c'est de savoir où est-ce qu'on passe notre éternité. D'accord ? Donc, les enfants sont des êtres spirituels. Il y a une dimension spirituelle en eux, à cause de l'image de Dieu, c'est ce qu'on a vu. Et il y a aussi une dimension éternelle, d'où la nécessité de la régénération, de naître de nouveau, de donner sa vie à Christ. Donc la régénération est une nécessité. Donc elle doit faire partie de notre programme scolaire, la régénération. C'est aussi un être personnel, une personne à part entière, douée de raison. Alors sa raison n'est pas totalement intacte, hein, même si la grâce commune lui permet d'avoir quand même une intelligence. Mais c'est un être personnel qui est doué de raison. Alors c'est avant tout, je vais le dire comme ça, mais c'est avant tout un pécheur. Et on doit, nous, en tant qu'enseignants, retirer, briser ce cœur de pierre pour que puisse naître en lui ce cœur de chair. J'avais une maman, par exemple, je vous donne juste un exemple comme ça, l'année dernière, qui était un petit peu stricte, on va dire, dans son éducation. Elle trouvait que j'étais un peu trop laxiste. Oui, mais elle parle en classe, elle fait... Elle parle, c'est un enfant, quoi. Mais elle trouvait que c'était un peu trop laxiste, donc elle voulait que je durcisse. Mais beaucoup. Elle avait donné le petit bracelet, donc quand elle faisait une bêtise, il fallait que je voie le bracelet, comme ça quand elle rentrait à la maison, on voyait qu'il n'y avait pas le bracelet, puis vous imaginez derrière. Enfin, ça allait loin, hein. Puis du coup, moi, elle venait minimum une fois par semaine me prendre à la sortie de l'école pour me dire, oui, voilà, est-ce qu'elle a parlé aujourd'hui? Elle m'envoyait des messages le soir, enfin, c'était... Au bout d'un moment, j'ai quand même fini par lui dire, bien mon fraternel, hein, comme j'ai pu, mais lui dire, écoutez, moi, je suis chrétien, je ne suis pas juif, je ne vis pas sous le Lévitique, donc je ne vais pas la martyriser toute la journée. Et mettre des coups de trique sur un cœur de pierre, hein. Moi je vais casser ma trique, mais ça ne changera absolument rien. Hein. Ce qu'il faut là chez votre fille, c'est changer son cœur. Hein. C'est pas être un tyran. Hein. Donc moi j'étais un peu sec. C'est passé quand même. Hein, mais bon voilà. Donc ça c'est important pour nous de se rappeler de ça pour la discipline, par exemple. Hein. Une discipline en classe, hein. Ça ne sert à rien de... Toujours crier sur les enfants, tant qu'on n'a pas changé leur cœur, en fait, vous aurez beau crier dessus tout ce que vous voulez, on ne fera pas grand-chose. Hein. Vous leur ferez peur, mais sinon, voilà. Son intelligence est obscurcie, c'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les capacités qu'il pourrait avoir. Donc c'est aussi à nous d'essayer, avec l'aide de l'esprit, d'essayer de développer ses capacités, de l'aider à développer ses capacités. En recevant l'illumination. Et c'est un être qui a des besoins sociaux et relationnels. D'accord, comme j'ai marqué, dialectique collective et individuelle. Il a des besoins en lui-même, pour lui, mais il y a aussi des besoins d'être en connexion avec les autres. D'accord, donc il a des besoins, il y a des moments où il a besoin d'être tout seul. Donc il ne faut pas forcément systématiquement le forcer à retourner avec les autres. J'étais un petit peu comme ça aussi, voilà, c'est mon caractère, en fait, il y a des moments où j'aime bien être tout seul. C'est pas parce que j'aime pas les autres, c'est juste que voilà, pendant 10 minutes, j'aime bien me ressourcer tout seul. Mais il y a aussi des moments où ils doivent être ensemble. L'être humain, normalement, a besoin d'avoir des échanges avec les autres, d'avoir des relations. Chacun à différents degrés, hein. Il y en a des qui sont maman poule déjà à cet âge-là, petit. Il y en a des qui aiment bien tout seul, mais normalement, il faut un équilibre entre les deux. Donc ça, c'est intéressant pour nous, par exemple, en application pratique, en salle de classe, voilà, il y a des moments où les enfants peuvent travailler tout seuls, et puis il y a des moments où c'est bien de faire des groupes. Celui qui n'a pas envie de travailler dans un groupe, parce qu'à ce moment-là, il n'a pas envie, ce n'est pas forcément utile de le forcer. Nous, en tant qu'enseignants, on est aussi là pour aider l'enfant à entrer dans sa vocation. Quel est son appel ? Donc ça, c'est à nous d'essayer de discerner avec l'enfant quels sont ses dons pour que plus tard, quand il grandisse, qu'il donne sa vie à Christ, qu'il puisse servir l'Église. C'est ça aussi, la finalité. D'accord ? Alors là, il me demande souvent, « Monsieur, je ne sais pas c'est quoi mes dons. » Alors Dieu fait bien les choses. Généralement, il nous donne des dons avec lesquels on est content de... Enfin, des dons qu'on est content d'avoir. Moi, généralement, on me dit que mon don, c'est l'enseignement. Ben, ça tombe bien, je suis content d'enseigner. S'il m'avait donné comme don l'art plastique, ça m'aurait moins plu, parce que franchement, j'aime pas ça. Donc, généralement, tout ce qui nous procure joie et plaisir, ça colle à nos dons. D'accord ? Donc, généralement, quand il me demande, monsieur, quels sont mes dons ? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Est-ce que tu aimes faire de la musique ? Est-ce que tu aimes faire de la peinture ? Est-ce que tu aimes écrire ? Est-ce que tu aimes t'occuper des autres ? Voilà, donc ça, c'est tous des moyens pour essayer de voir quels sont un petit peu ses dons. Et puis, on peut déjà... l'école chrétienne, c'est un peu... enfin, l'école, en tout cas, ça peut être une antichambre un peu de l'Église. Hein. Donc, ils peuvent déjà mettre leurs dons au service de l'école pour quand ils seront un petit peu plus grands, qu'ils puissent mettre aussi leurs dons carrément, concrètement, au service de l'Église. Même s'ils peuvent déjà servir l'Église à leur âge, hein, mais c'est moins facile. Les enfants sont aussi des enfants à promesses. C'est un magnifique livre que j'avais lu, qui s'appelle Enfants en promesses d'ailleurs, c'est pas très compliqué. Il y a une promesse dans chacun des enfants. Quelle est cette promesse? Et ça, c'est aussi vraiment très important. Là, on voit une dimension très pastorale là-dedans, parce que certains enfants ne sont pas très bien, des fois. Ils se rabaissent un petit peu eux-mêmes. Et d'aller simplement leur dire, et de leur dire, écoute, en toi, Dieu a mis une promesse. Il y a une promesse en toi. Là, pour le moment, tu es dans ta petite chrysalide, mais Dieu attend juste que tu deviennes un beau papillon. Quelle est cette promesse qui est en toi? Vous voyez, il y a vraiment une dimension qui réconforte l'enfant. Un caractère très pastoral. Essayer de découvrir quelle est cette promesse dans l'enfant. L'enfant, c'est l'Église aussi d'aujourd'hui et de demain. Des fois, on fait un peu des batailles de vocabulaire. Non, l'enfant, c'est l'Église d'aujourd'hui. Non, l'enfant, c'est l'Église de demain. Ben, c'est les deux, en fait. Hein. L'enfant, c'est déjà l'Église d'aujourd'hui. Il fait déjà partie de l'Église. Mais en même temps, c'est aussi l'Église de demain. Hein, parce que nos futurs responsables d'Église, nos futurs théologiens, nos futurs missionnaires, ils sont peut-être dans notre salle de classe. Donc, c'est les deux. Donc, l'enfant est aussi un membre de l'Église. Et l'enfant a des besoins fondamentaux. Alors, on a vu que l'image de Dieu, c'était aussi bien l'esprit que le corps. Donc, il a des besoins dans les deux dimensions. Il a des besoins identitaires, en ce qui concerne son esprit, des besoins spirituels. Tous les êtres humains sont spirituels. Tous les êtres humains ont une soif spirituelle. Les enfants ont des besoins spirituels aussi. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de le faire, plus vous verrez que plus vous leur en donnez, plus ils en demandent. Hein. C'était Blaise Pascal qui disait que l'homme a un trou dans le cœur en forme de Dieu. Hein. On se cherche tous un Dieu. Hein. Donc on a tous des besoins spirituels. Des besoins moraux, des besoins intellectuels, etc. Et il a aussi des besoins physiques. Sommeil, alimentaire, donc ça c'est à nous aussi de pouvoir veiller dessus et leur apporter sécurité, liberté, voir, tiens aujourd'hui tu as l'air un petit peu fatigué, ou que ça va, ou, voilà. Prendre en compte aussi tous ces besoins physiques.